La capsule.
Allô.
Le coup de fil à un ami.
Allô.
Au signal, veuillez dicter votre message.
J'ai entendu dire que la planète Vénus était passée devant le Soleil le 6 juin. C'est quoi cette histoire ?
Au CNES, celui qui sait, c'est Francis Rocard, planétologue.
Allô.
Allô, Francis ?
Oui.
Est-ce que tu peux m'expliquer la particularité du transit de Vénus ?
La particularité des transits de Vénus, c'est qu'ils sont extrêmement rares. On en a observé 4 dans l'histoire de l'astronomie. Pourquoi ? Parce que ces transits ont lieu tous les 8 ans, d'une part, et ensuite il y a un saut de 121 ans et demi, puis à nouveau 8 ans, et un saut de 105 ans et demi. Donc on a une période d'environ 243 ans pour les transits, ce qui signifie que ce dernier transit de juin 2012 est le dernier de notre vivant, puisque le prochain aura lieu en 2117 et toutes les personnes actuellement sur Terre seront décédées.
Mais qu'est-ce qui fait l'intérêt scientifique de ce transit ?
L'intérêt des mesures qui ont été faites lors de ce transit, c'est qu'un transit de Vénus, finalement, c'est le transit d'une planète extrasolaire autour d'une étoile. Et donc, en caractérisant précisément des mesures liées à la composition de l'atmosphère de Vénus lors d'un transit, on peut mieux comprendre et mieux interpréter des mesures de transit, grâce par exemple à Corot comme satellite CNES, de planètes extrasolaires, et donc essayer de faire des mesures de l'atmosphère de ces planètes autour d'autres étoiles.
Et que connaît-on de cette planète aujourd'hui ?
Les conditions au sol sont bien connues depuis que les sondes Venera soviétiques se sont posées. On a des températures qui sont à peu près équivalentes de ce qu'on a sur Mercure, c'est-à-dire environ 460 degrés, et par contre une atmosphère de 90 bars, 90 fois la pression atmosphérique, et en plus une composition riche en acide sulfurique. Donc on a véritablement un environnement tout à fait infernal et extrêmement hostile à toute sonde que l'homme pourrait envoyer dans l'atmosphère de Vénus, notamment près de la surface. Donc les conditions de survie à la surface sont aujourd'hui de l'ordre de quelques heures.
Quels sont les projets futurs envisagés pour explorer Vénus ?
Il y a une difficulté pour les gens qui s'intéressent à Vénus, qui est que, d'une part, ces missions au sol sont extrêmement difficiles à faire, leur durée de vie est extrêmement courte, et faire une mission qui ne s'intéresse à l'atmosphère, ça coupe un pan entier de la communauté. Tous les minéralogistes, par exemple, ne sont pas concernés par ce type de mission, et donc on se retrouve avec des communautés scientifiques un peu réduites. C'est ce qu'on observe sur Vénus Express, dont la communauté est uniquement une communauté atmosphérique, et évidemment aucun géologue ou très peu sont membres de cette communauté. Donc une difficulté pour explorer Vénus dans le futur, c'est un fait.
Merci Francis Rocard.
Ah, merci. C'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens,
les sens.
Dans tous les
dans
sens.
Tous.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens.
Espace. 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 Espace, frontière de l'infini. Frontière paradoxale sur laquelle la Terre n'est qu'un point, elle-même étrange frontière, recourbée sur elle-même, finie mais sans limite. Un point perdu dans l'espace, certes, mais un point pas comme les autres. Un point posé sur le i de la vie, où grandit une humanité consciente d'elle-même, ce qui n'est déjà pas si mal, et du reste de l'univers quand elle a le temps. Ah, l'univers. Par l'espace, il me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends, nous avertissait déjà Pascal au XVIIe siècle. Seule la pensée, l'intelligence, la conscience pourront nous servir de boussole dans ce grand océan cosmique. Alors, dans ce vaste univers, existe-t-il d'autres points semblables à ce pâle point bleu que nous appelons Terre ? Et ces points, une ligne les reliera-t-elle un jour, dessinant le plus formidable espoir que la trame de l'espace ait jamais porté ? La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie au berceau, disait à son tour Tsiolkovsky, le père de l'astronautique. Pour l'heure, l'humanité est déjà avide de découvertes et d'explorations, mais à l'échelle des siècles, elle vient à peine de faire ses premiers pas. Un jour pourtant, ils partiront, ces chevaliers des temps futurs, tels ceux des légendes médiévales, pour un voyage sans but et sans retour, pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr, l'humanité ne sait pas encore ce qu'elle trouvera au fil de ce chemin, mais elle sait déjà que c'est là, dans l'espace, que se jouera son destin.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
À l'école du Petit Prince. Je ne peux observer la ronde incessante des satellites autour de la Terre sans ressentir une légère impression de tournis. Près de 5000 ont été mis en orbite depuis le lancement de Spoutnik. Moins de 2500 y sont encore, dont 600 poursuivent leur mission. Une immense flottille, aux vitesses fixées par les lois de la mécanique céleste, et qui pourtant donne l'impression que la Terre, notre Terre, tourne de plus en plus vite. J'entends que notre mode de vie à sa surface, mais aussi les phénomènes qui s'y déroulent, subissent de fortes accélérations jusqu'à devenir incontrôlables, immaîtrisables. Et je me plais à relire les mots imaginés par Antoine de Saint-Exupéry pour les mettre dans la bouche de l'allumeur de réverbère auquel le petit prince rend visite. « C'est bien le drame, se plaint-il. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. » Oui, sous le regard des satellites, comme dans la bouche des scientifiques et des experts, nous sommes bel et bien forcés de reconnaître que notre Terre, nos sociétés, nous-mêmes aussi, vivons, changeons de plus en plus vite. Nous continuons à faire des projets sur la comète, à nous projeter à moyen, voire à long terme, alors que nous ne possédons qu'une infime connaissance de l'avenir, accrochés à de fragiles prévisions, rassurés par des consignes, souvent solides, mais inadaptées au changement. Nous préférons toujours croire ou espérer qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À plusieurs reprises déjà, les anges gardiens de l'espace ont permis de sonner l'alarme lors de catastrophes techniques, écologiques, humanitaires, médicales. Ils ont abondamment alimenté les rapports préliminaires aux conférences comme celle de Rio +20. Mais le poids des mots, le choc des photos, même satellitaires, paraît souvent insuffisant à déclencher une prise de conscience en même temps qu'une confiance capable de déplacer les montagnes de l'habitude, de la paresse ou de la peur. Voilà une bien étrange alchimie. Fascinés par les technologies que nous maîtrisons, par les connaissances que nous acquérons, nous en oublions d'agir en conséquence, de nous donner les objectifs et les moyens de notre action. Nous n'avons pourtant qu'une seule Terre, mettait déjà en garde, il y a 40 ans, Barbara Ward et René Dubos, lors de la préparation de la première conférence internationale sur l'environnement. Aussi, nous devons en prendre un soin aussi constant, aussi fébrile que celui déployé par le petit prince à l'égard de sa rose. « Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable, et elle est tellement faible, et elle est tellement naïve, elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. » Nous devons impérativement nous soucier de notre terre, comme le petit prince de sa rose, courtiser la terre malgré ses caprices, car elle en a, et malgré nos maladresses, nous en avons commis de nombreuses. Notre humanité doit apprendre enfin à aimer la terre et ne plus se contenter de la surveiller du coin de l'œil des satellites.
Alors, allons-y.
Allons-y.
La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre?
C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui.
Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre? C'est qui a les clés?
Allez, à la prochaine.